Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion de présentation de nos résultats 2021. Merci d'être venu physiquement. Ah, voilà. On peut commencer. Nos résultats sont solides, vous le verrez dans cette présentation, et je tiens à saluer le travail des équipes qui ont contribué à cette performance. Voilà. Cette présentation, donc je suis, pardon, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis Frédéric Moine, le PDG du groupe, et cette réunion sera également animée par Julien Gauthier, qui est assis là au premier rang, qui est le directeur général adjoint en charge des finances. Et vous avez dans la salle beaucoup de salariés d'Albioma, que je remercie de leur présence également. Cette présentation est structurée de façon très classique en cinq parties. Un rappel des faits marquants, notre positionnement stratégique sur lequel je passerai assez vite parce que vous connaissez, je pense, tous bien la société. Une troisième partie que Julien servira s'agissant de la performance opérationnelle ainsi que les résultats financiers qui vous seront également présentés par Julien. Je reprendrai la parole en toute fin de présentation pour les perspectives. Alors, l'année 2021, que s'est-il passé? Vous voyez déjà qu'on a un nouveau graphisme. Donc, je remercie les équipes de la communication, très épurées, très sobres, très beaux, à l'image de cette société. 2021, l'exploitation et le développement. L'exploitation avec un taux de disponibilité globale de nos outils bons, ce qui nous permet d'afficher des résultats en croissance, avec un EBITDA en hausse de 4%, un résultat net part du groupe en hausse de 7%, et vous verrez plus tard la façon dont nos agrégats ont évolué entre 2020 et 2021. Nous publions donc ce matin des résultats en haut de fourchette de guidance. Et ceci s'explique grâce à la contribution en année pleine de la tranche Albioma Le Moule 3 en Guadeloupe, qui a été convertie et remise en service à la biomasse fin 2020, donc première année pleine de contribution de Albioma Le Moule 3, avec une disponibilité record de cette centrale. À noter également sur 2021 des performances exceptionnelles au Brésil, une hydraulicité très faible, des prix de l'électricité en très forte hausse qui nous ont permis d'arbitrer et de jouer sur la quote-part d'électricité non vendue au titre de contrat long terme et profiter d'appels d'offres d'urgence dans des conditions de prix exceptionnelles. Une très solide contribution de notre première centrale de géothermie en Turquie. Et enfin, des événements non récurrents et notamment le solde de deux claims, c'est pas très joli comme expression, mais notamment lié à la répercussion des surcoûts de construction de notre centrale de Galion 2 à la Martinique. Vous vous souvenez qu'on avait eu des surcoûts importants et la commission de régulation de l'énergie a délibéré et nous a donné partiellement satisfaction en réintégrant une partie des surcoûts dans l'assiette de rémunération de la prime fixe. Côté développement, une très belle année également avec une densification nette de notre portefeuille de projets. Sur ce qui était déjà engagé, déjà connu, on rappelle ici les chantiers de conversion de nos centrales charbon à la biomasse. C'est la premier sous-bullet point de ce que vous voyez dans cet alinéa développement. Les travaux en cours de conversion de la centrale de Bois-Rouge. Au Gol également, de très bonnes nouvelles permettant d'ouvrir la voie à la conversion intégrale de cette centrale et l'abandon total du charbon à La Réunion à horizon 2024, avec tout récemment une délibération qui est désormais publiée sur le site de la CRE, qui arrête la base des capitaux permettant la conversion, capitaux qui seront rémunérés. L'arrêté ministériel a également été publié. Et puis, dernier élément sur ce sujet conversion, la sécurisation de nos approvisionnements avec une acquisition au Québec d'une centrale de granulés, et on y reviendra dans le courant de la présentation, pour alimenter nos centrales thermiques. Une belle année sur le front du solaire, 29 MW engrangés, et une belle année également sur le front du développement de ce nouveau métier qui est pour nous la géothermie, avec une acquisition en toute fin d'année, tout début d'année même, 2022, closée, deuxième centrale de géothermie en Turquie. Voilà pour ces faits marquants. Le positionnement stratégique du groupe, vous le connaissez, il n'a pas évolué, au bémol près que vous voyez maintenant apparaître sur ce slide, notre nouveau métier qui est la géothermie, code couleur rouge. Donc vert la biomasse, jaune le photovoltaïque, rouge la géothermie, c'est facile. Nous sommes désormais présents donc dans trois métiers, et s'agissant de la biomasse, vous connaissez notre axe stratégique. Nous sommes adossés pour la plupart de nos centrales à des sucreries. Nous recevons la bagasse de la sucrerie qui est le résidu de la canne après broyage. Nous valorisons cette bagasse dans des chaudières, haute pression, haute température. Nous produisons de la vapeur qui sert en retour à alimenter le sucrier pour son process et à faire tourner une turbine à vapeur qui elle-même produit de l'électricité vendue sur le réseau. Le photovoltaïque, c'est un peu plus facile, c'est des panneaux solaires, de temps en temps avec des batteries. Et la géothermie, c'est un métier un petit peu plus complexe, et on y reviendra. Les chiffres clés, vous les avez sur la partie droite de ce slide. Nous sommes maintenant presque 700. Notre présence géographique, trois grandes zones, l'océan Indien, que vous voyez en bas à droite, Réunion, Maurice et Mayotte, 40% de part de marché dans la production d'électricité à La Réunion. Nous sommes un acteur important de la sécurité des réseaux. Et je profite pour faire une petite parenthèse sur ce sujet. Vous avez vu que La Réunion a été frappée par deux cyclones récemment, Batsirai et le deuxième Eminati. Vous n'avez pas entendu parler d'Albiomas, ce qui est bon signe. Et pourquoi vous n'en avez pas entendu parler? Parce que toutes nos centrales ont continué à tourner pendant l'épisode cyclonique. Épisodes au cours desquels, naturellement, le photovoltaïque ne tourne pas, et d'ailleurs souvent déconnecté par EDF, par gestionnaire du réseau, pour éviter les retours de tension. L'éolien est mis en rideau, l'hydraulique est plutôt difficile à faire tourner parce que les prises d'eau sont engravées. Donc, ce qui reste pour produire de l'électricité à La Réunion quand il y a des cyclones qui durent longtemps, c'est quoi? C'est les bons vieux moteurs fuel d'EDF et les bonnes vieilles centrales thermiques d'Albioma. Et ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. Nous sommes un acteur de la transition énergétique, nous sommes un acteur du renouvelable et nous sommes un acteur de la sécurité des réseaux. Deuxième zone, les Caraïbes, avec une présence forte en Guadeloupe, presque 30% de production d'électricité. Vous voyez que cette quote-part a légèrement remonté et c'est lié à la conversion à la biomasse de notre centrale du Moule 3. Martinique, 20%. Nous sommes également un gros solariste en Guyane. Et notre troisième zone c'est thermique, c'est le Brésil, où nous opérons quatre centrales. Nous sommes aussi présents en métropole avec du solaire et depuis début 2021 en Turquie. Notre actionnariat, les usual suspects sont toujours là. Impala, Cofeb, BPI, CDC, 6655. Vous avez sur la partie gauche, en vert clair, vert foncé, Brown Capital, qui est un fonds américain, et sur la partie droite, deux autres américains qui sont peut-être un peu moins long terme, hein, Cabouter et BlackRock, mais on a pris le parti de décomposer notre actionnariat jusqu'au seuil des 3%. Donc vous avez tout ici, tous les institutionnels détenant plus de 3%. De notre capital, un free float de l'ordre de 60%. Vous voyez une liquidité très forte, environ 7 millions d'euros par jour, en moyenne 6 mois, toutes plateformes confondues, dont 2,2 millions sur Euronext. Et vous voyez une internationalisation de notre base actionnariale avec des Français qui représentent aujourd'hui 45% de notre actionnariat, des Européens hors UK et France, 25, UK 5 et Amérique du Nord, 3. Notre stratégie, trois piliers, la transition énergétique dans les départements d'outre-mer, l'accélération du déploiement de nos projets solaires et diversification géographique ou technologique. La transition dans les départements d'outre-mer, c'est essentiellement, pour le dire différemment, l'abandon du charbon. Je vous ai expliqué notre modèle. Nous sommes adossés à des sucreries. Il se trouve que les sucreries ne tournent que pendant la campagne sucrière qui dure entre 5 et 7 mois par an. Et donc, historiquement, nos centrales ont été alimentées. Nos centrales qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont été alimentées en dehors de la campagne sucrière en ayant recours à du charbon. Le charbon, c'est le combustible fossile le plus émetteur de CO2 et celui dont on souhaite se débarrasser donc le plus vite dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Nous sommes engagés dans une stratégie de décarbonation de notre mix qui veut dire abandon du charbon dans nos centrales et remplacement du charbon par d'autres formes de biomasse que la bagasse. C'est ce que vous voyez, c'est le pilier numéro 1 à gauche de ce slide. Il y a également d'autres opportunités dans les territoires dans lesquels nous sommes, pilier numéro 2, et par ailleurs, nous regardons ici SRF, en français les CSR, combustibles solides de récupération, dit autrement, la fraction à haute valeur énergétique des ordures ménagères. Les îles dans lesquelles nous sommes ont un gros problème de déchets, de traitement des déchets, et une des solutions consiste à mettre en place des unités de tri mécanobiologique, donc de commencer par ce qu'on appelle la valorisation matière, de sortir tout ce qui est valorisable et recyclable, et d'aboutir à, in fine, à la production de ce qui devient un combustible, solide de récupération, qui a une valeur énergétique, qui est considéré au moins partiellement comme un combustible renouvelable et que nous pourrions valoriser dans nos chaudières. S'agissant de la biomasse, nous valorisons ou nous valoriserons demain trois formes de biomasse. La bagasse, j'en ai déjà parlé, pendant la campagne sucrière, 6 à 10 mois par an, en fonction des zones. D'autres formes de biomasse locale à laquelle nous donnons la priorité et toujours en respectant la hiérarchie des usages, et de la biomasse importée qui présentera deux caractéristiques, le respect des critères de légalité, donc règlement bois de l'Union européenne, pas de bois illégal, et deux, les critères de durabilité, c'est-à-dire essentiellement les critères visés dans la réglementation RED II Renewable Energy Directive, réglementation européenne, qui vise à éviter tout sujet lié aux problématiques d'utilisation de biomasse. Nous n'utilisons que des biomasses en énergie qui ne peuvent pas être valorisées autrement dans d'autres circuits. Et c'est ce qu'indique ce slide que vous voyez apparaître. Nous sommes l'utilisateur final de biomasse en bas à droite de ce slide. En haut à gauche, vous avez la forêt. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas l'acteur qui envoyons le signal prix pour aller couper un arbre dans une forêt. Nous n'utilisons que des résidus, soit des résidus de l'activité forestière directe, donc ce que vous voyez sur la flèche en bas de ce slide, par exemple des bois d'éclaircie ou des bois d'élagage, soit des résidus d'une activité type sillage qui génère des déchets que nous processons dans notre qui sont processés dans ces unités de fabrication de pellets qui ensuite pellets sont transportés jusqu'à nos usines. Donc le bois de haute qualité et le bois d'œuvre ne sert pas à faire du granulé. Et lorsque nous brûlons ou valorisons du granulé dans nos centrales, nous ne contribuons pas et nous ne pouvons pas contribuer à la déforestation. La loi ne nous le permet pas. Les critères de durabilité que nous impose RED II visent à ce que les consommateurs de pellets vérifient, et c'est tout le système de certification, vérifient que la forêt reste une forêt, le stock de carbone d'une forêt dans laquelle on fait des prélèvements reste en augmentation constante. Le souci est également lié à la préservation de la biodiversité, le changement d'usage des sols, etc., etc. Nous avons acquis en début d'année une unité de granulation au Québec. Vous voyez la photo en haut à droite. Nous ne devenons pas, et ce n'est pas un nouveau métier pour nous, que de devenir des producteurs de granulés pour compte de tiers. Cette acquisition s'inscrit dans une logique stratégique qui est la suivante. 1. Sécurisation de la chaîne logistique. Nous avons aujourd'hui des centrales qui tournent à la biomasse. Nous consommons 150 000 tonnes, 160 000 tonnes de pellets en Martinique et à peu près l'équivalent en Guadeloupe. Donc 300 000 tonnes de pellets, cette unité fait 200 000 tonnes de production. Et c'est pour nous un moyen de sécurisation à la fois en volume et également en termes de flux, puisque au port de Fort-de-France ainsi qu'au port de Pointe-à-Pitre, nous avons des dispositifs de stockage, des gros dômes blancs. Vous avez déjà vu les photographies qui font 20 000 mètres cubes. Ce qui veut dire que nous sommes en flux tendu dans nos approvisionnements et il faut attendre que le stock soit vide pour pouvoir faire entrer le bateau d'après. L'avantage de cette acquisition au Québec, c'est qu'elle vient également avec un contrat long terme d'accès à un terminal de stockage de 45 000 tonnes. Donc nous avons maintenant un stockage déporté à proximité immédiate, 3 jours de mer, de nos centres de consommation Guadeloupe et Martinique, ce qui va nous permettre de nous donner beaucoup de flexibilité et d'arbitrer et de mieux gérer l'aléa maritime. Donc la première des raisons, c'est la localisation de cette centrale et la capacité d'avoir accès à un terminal de stockage dans un contexte que vous connaissez aujourd'hui de tension sur les approvisionnements. Évidemment, la deuxième raison, c'est la qualité du produit qui sort de cette usine. On est au nord du 55e parallèle. Donc là, vous pouvez être sûr que les arbres y mettent très longtemps à pousser. Donc on ne va pas s'amuser à aller couper un arbre pour le transformer en pellet. On fait d'autres choses avant. Et donc cette centrale, elle vient avec des garanties d'approvisionnement monitorées par le gouvernement du Québec. Et nous savons, et nous l'avons vu et audité, que les granulés qui sortent de cette unité ne sont des granulés qui ne sont fabriqués qu'à partir de résidus d'activité de sillage ou de bois de faible qualité. Le bois d'œuvre, il part dans les scieries directement. Ces granulés sont certifiés et nous-mêmes, utilisateurs finaux, nous sommes certifiés déjà en Guadeloupe et en Martinique. J'ajoute qu'on n'a pas en plus fait a priori une mauvaise affaire financière puisque c'était une unité qui était insolvable et donc que l'on a récupéré à l'issue d'un processus d'enchère, mais ce n'est pas pour ça qu'on a fait cette opération, je vous l'ai dit, logistique et durabilité du produit. Solaire, on va passer vite. On continue le déploiement de notre franchise solaire. Nous avons aujourd'hui, nous exploitons plus de 100 mégawatts. Nous continuons. Nous avons un positionnement qui est celui que vous connaissez, des centrales de moyenne taille, à la fois sur toiture et au sol. Et nous sommes sur des marchés sur lesquels la tendance est plutôt bonne, notamment en métropole aujourd'hui. Il y a un petit trou d'air dans les EDNI, comme vous le savez, puisque le dernier appel d'offres solaire est sorti en décembre 2020. Et depuis décembre 2020, il n'y a pas d'appel d'offres pour de nouvelles capacités solaires. Le déploiement de notre savoir-faire à l'étranger. Vous savez que nous sommes positionnés aujourd'hui à Maurice et au Brésil. À Maurice, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous avons 45% de part de marché. Alors nous sommes minoritaires, nous détenons 25% de nos 3 centrales mauriciennes. Mais ces 3 centrales produisent 40% de l'électricité à Maurice. Donc nous sommes un gros acteur de la production d'électricité à Maurice. Et nous sommes au Brésil où nous avons 4 centrales qui ont très très bien fonctionné au cours de l'année dernière. Et désormais, en Turquie, notre ambition est de continuer sur le moyen terme à nous diversifier à la fois de façon géographique et technologique. Alors rassurez-vous, on ne va pas ajouter tous les ans un nouveau métier. Je pense qu'avec la géothermie, nous sommes désormais bien armés avec biomasse solaire et géothermie. Alors, géothermie, vous connaissez les raisons qui nous ont poussé à regarder ce métier. La géothermie, c'est une énergie renouvelable qui est compétitive, qui est locale et qui est une énergie stable, hein, puisque la production de géothermie, c'est toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, contribution à l'équilibre des réseaux, hein, contribution significative par la production d'énergie pilotable. Nous avons deux centrales de géothermie désormais en activité, Gumuzkoï et Kouyoutchak, il va falloir vous y faire. La première fait 13 MW et a exporté l'an dernier un peu plus de 45 gigawattheures. Et la seconde, vous voyez, 18 MW, un peu plus de 80-85 gigawattheures, des licences longues, des contrats d'achat libellés en dollars, bien que nous soyons en Turquie, et donc un peu plus court que sur notre business thermique classique. Hein, on a des contrats d'achat sur 10 ans et donc une dette libellée en dollars également sur 10 ans, ce qui fait qu'à l'issue de la période de feed-in tarif, par construction, nos unités sont désendettées, elles sont assez largement amorties et donc elles sont en capacité de vendre leur énergie dans des conditions extrêmement compétitives puisque le prix marginal de production, ou le coût marginal, je devrais dire, de production de l'énergie géothermique, il est de zéro. Hein. On ne paye pas la ressource qui sort de la Terre. C'est comme le solaire ou l'éolien. Et à la différence du solaire et de l'éolien, cela donne de l'énergie H24. La Turquie est un pays intéressant en matière de potentiel. Quatrième pays géothermique, 1600 MW installés et une dynamique de croissance du parc, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Le premier pays de géothermie, ce sont les États-Unis. Viennent ensuite l'Indonésie, la Turquie est quatrième, et je ne me souviens plus du troisième, mais peut-être que Louis. Ah, t'es sûr ? Je pensais après. Bon, peu importe. Bref, il y a du potentiel de géothermie un petit peu partout, et donc nous sommes au travail. Et d'ailleurs, je dois vous montrer une vidéo sur la géothermie. Par vous montrer la vidéo, ça m'aurait évité des redites. Kouyoutchak, qui est notre deuxième centrale de géothermie, c'est un actif qui vient également avec du personnel un peu plus nombreux que Gumuzkoï, notre première entité, et qui vient notamment avec toute une équipe spécialisée en matière de géothermie, avec, je ne vais pas vous donner le détail des compétences, mais des gens qu'on est en capacité de déployer immédiatement sur potentiellement des projets greenfield qui pourraient nous intéresser et nous accompagner dans l'analyse des réservoirs, la capacité à suivre les opérations de forage, etc., etc. Donc il y a une valeur stratégique aussi dans l'acquisition de cette deuxième entité. La combinaison de toutes ces actions, l'abandon du charbon, le solaire, la géothermie, le Brésil. Cela nous permet d'afficher ces ambitions en matière de pourcentage d'énergie renouvelable dans notre mix, avec un horizon 2030, qui est l'horizon du plan climat, presque 100% de renouvelables. Alors, on dit presque parce que dans la partie 0,5, si jamais on fait du CSR et que la réglementation nous dit que le CSR, c'est pas du 100% renouvelable, on ne veut pas, pour des raisons dogmatiques, dire qu'on est à 100% de CSR et à 100% de renouvelables et qu'on s'interdit de faire des projets qui pourtant sont vertueux, notamment sur la dimension économie circulaire. Aujourd'hui, 2021, 74% de renouvelables, 26% de fossiles. Et nous avons deux points d'étape pour atteindre le 100%, qui sont connus, affichés depuis longtemps maintenant, notamment le premier d'entre eux, 2023, 80% de renouvelables. Ça fait un moment qu'on le dit et on est en ligne pour réussir cet objectif de 80% d'énergie renouvelable en 2023, 90% en 2025 et j'espère, en réalité, l'atteinte de l'objectif 2030 avec quelques années d'avance si nous réussissons notre programme de sortie du charbon dans les départements d'outre-mer dans les délais qu'aujourd'hui nous voyons. Ces deux objectifs intermédiaires, 2023 et 2025, sont les objectifs qui sont contraignants pour nous s'agissant du taux d'intérêt que nous payons sur un bloc de dette corporate, notre euro PP, hein, avec un système de bonus-malus. Donc on a mis en place un Sustainability Linked Bond. Hein, et le taux de marge de ce prêt est indexé. Donc si nous ratons la marche de 80% d'énergie renouvelable, le coût de notre dette sera affecté d'un malus. Et à l'inverse, un bonus si nous réussissons. Non seulement des objectifs ambitieux, mais avec une sanction, si j'ose dire, financière. Notre performance extra-financière est bonne, elle s'améliore d'année en année. Nous sommes notés par Vigeo Eiris, désormais Moody's, parmi le top 3% des sociétés de notre secteur. Nous avons pour la première fois répondu à CDP. Alors il y a peut-être dans la salle d'entre vous des gens qui voulaient qu'on réponde. On a répondu, hein. On a eu C. C'est bien parce que c'est la note moyenne du secteur. Ne me demandez pas comment on passe au-dessus, parce qu'à chaque fois, pour savoir, il faut payer. Donc je préfère, il faut que vous le sachiez, hein, on est obligé de payer pour savoir comment on progresse. Voilà. Donc je passe sur ce sujet extra-financier. On est bon, mais enfin, il vaut mieux regarder aussi tout, et surtout les actions concrètes et réelles qui sont faites par les sous-jacents, et pas que la note. Voilà. Je passe. Je passe la parole à Julien.
Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter notre performance opérationnelle avant de parler de chiffres, en commençant, comme traditionnellement, par notre activité thermique en France. On a eu une disponibilité qui est bonne à 90,5%. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, Albioma vise des taux de disponibilité supérieurs à 90%. Quand on est très très bon, on est plutôt à 92-93%. Il est très difficile de faire mieux, hein, parce qu'on a des arrêts de maintenance incompressibles et des arrêts fortuits tous les ans. En début d'année, il y a eu quelques incidents techniques, notamment sur les Antilles, qui ont un peu impacté cette disponibilité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait moins bien qu'en 2020. En termes de production, on est à 1892 gigawattheures comparé à 1940 l'année dernière. Alors là, c'est intéressant de s'y arrêter deux minutes, et ça explique plusieurs choses. Au deuxième semestre, à cause de l'envolée des coûts du charbon et de l'envolée des prix des quotas de CO2, notre énergie qu'on vend sur le réseau était beaucoup plus chère. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est en passe-roue, donc même si on achète le combustible plus cher, on le refacture à notre client en France, hein, EDF, plus cher. La moins bonne nouvelle, c'est que comme notre énergie était plus chère, on est passé derrière notre principal concurrent dans les territoires outre-mer sur le merit order. On est passé derrière le fioul d'EDF. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a été moins appelé que de coutume, que depuis la mise en service de ces centrales, sur la Réunion au deuxième semestre. Et on s'attend à la même chose en ce début d'année 2022. Moins appelé, ça a une conséquence, ça dégrade nos rendements. Hein, c'est comme une voiture, il vaut mieux qu'elle tourne en permanence plutôt qu'elle s'arrête, elle redémarre à plusieurs reprises sur une journée ou sur une semaine. Ça a dégradé un petit peu nos rendements et augmenté nos charges d'entretien. Donc sur le thermique, la très bonne nouvelle, c'est que grâce à la conversion, on devrait assez rapidement, si on prend Bois-Rouge dès la fin de l'année et l'année prochaine, repasser devant EDF sur le merit order. On s'attend en tout cas en 2022 à ce que les prix du charbon, et il suffit de regarder aujourd'hui, et des combustibles soient encore assez élevés. Alors, au vu des prix du pétrole en ce moment, il n'est pas impossible que EDF repasse derrière nous. Hein, parce que si le charbon, il y a une corrélation entre pétrole et charbon, mais si le charbon augmente moins vite que le pétrole, ils vont peut-être être pénalisés. À ce jour, on est plutôt prudent parce que ça a un impact sur nos centrales réunionnaises. Dernière nouvelle, et elle est très importante, Frédéric en a parlé, on a signé des avenants sur nos deux centrales, Galion 2 en Martinique et Saint-Pierre à La Réunion, suite à la mise en service de ces centrales en 2018 et 2019 respectivement. Nous avons fait une démarche auprès d'EDF pour être compensés des coûts de construction, des surcoûts de construction que l'on considérait comme exogènes. Nous avons obtenu gain de cause et vous verrez, ça impacte nos résultats. À la fois, on récupère de l'argent entre 2018 et 2021, donc ça, c'est ce qu'on appelle la compensation rétroactive, et on a augmenté nos revenus sur ces centrales jusqu'à la fin des contrats. Et donc, c'est quelque chose qu'on va engranger année après année en termes de prime fixe. Alors, sur le développement, on a eu une activité très riche sur le thermique, avec des travaux de Bois-Rouge qui avancent très bien. On est complètement en phase avec notre calendrier, malgré toutes les contraintes logistiques, fret, qu'on peut rencontrer en ce moment, à la fois sur ces territoires, mais un peu partout dans le monde. Et pour ceux qui se rendent à La Réunion ou qui se sont rendus à La Réunion récemment, vous verrez que notre usine de Bois-Rouge a complètement changé. Et idem pour le site au port. Je vais vous projeter une petite vidéo, donc vous en rendrez compte. On rappelle que sur la conversion de Bois-Rouge, les travaux sont en cours. Il y a un gros arrêt de tranche prévu dès cette année qui va nous permettre de mettre en service au deuxième semestre une tranche 100% biomasse à BR2. Et les deux tranches suivantes seront réalisées en 2023. Fin 2023, Bois-Rouge sera 100% biomasse. Ça, c'est pour la partie production et mix énergétique. Et pour la partie économique, on va commencer à toucher le fruit de nos efforts et de ces travaux dès fin d'année, alors un tout petit peu cette année et beaucoup l'année prochaine. L'autre excellente nouvelle, elle concerne le GOL. Alors, vous ne l'avez probablement pas encore vu, mais hier, la commission de régulation de l'énergie a délibéré favorablement pour la conversion complète et l'extension du contrat d'Albioma-Le GOL. C'est une excellente nouvelle. On attendait cela pour signer le contrat avec EDF et commencer les travaux. On va pouvoir le faire rapidement maintenant. Et ça veut dire qu'on va pouvoir tenir notre calendrier avec des travaux en 2023, 2024 et qui vont même commencer probablement dès 2022. Les montants, parce que la question risque d'être posée. Je rappelle que la conversion d'Albioma Bois-Rouge qui est en cours, c'était un peu plus de 200 millions d'euros. On imaginait que le GOL serait en dessous parce qu'il y a quelques économies d'échelle et puis il y a un effet courbe d'expérience. La réalité, c'est que depuis 18 mois, on vit dans un contexte inflationniste sur les matières premières, sur la logistique, sur le fret. Et donc, le coût des travaux sur le GOL va être un peu supérieur à ceux de Bois-Rouge. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi, dans le cadre des négociations qu'on a avec EDF et à la Creux, à les intégrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas exposé à un risque de surcoût et d'inflation du coût des équipements non répercutés. Voilà, j'ai beaucoup parlé sur ces deux sujets. Une petite vidéo, normalement, va prendre le relais. We'll be right back. Oui, donc là, sur le sujet conversion, hein, nous avons fait des progrès considérables ces derniers temps et c'est plus qu'une réalité. Notamment pour La Réunion, on est très confiant sur le calendrier qu'on a annoncé publiquement et les objectifs qu'a indiqué Frédéric de 80 et 90% dans les trois prochaines années. Le solaire. Alors sur le solaire, nous avons une activité stable sur l'année 2021. Vous voyez notre production 123 gigawattheures comparé à 125, nombre d'heures équivalent pleine puissance 1159 comparé à 1198 l'année précédente. Les quelques éléments qui expliquent cette performance. Un, on a souffert de baisse d'ensoleillement sur la Guyane. Et c'est sur la Guyane qu'on a les deux plus grandes centrales au sol d'Albioma. On a cédé nos intérêts minoritaires dans nos OTS et Corbières, hein, c'était prévu. C'est des petites participations dont on a hérité après l'acquisition d'Eneco en 2020 en France métropolitaine. Et enfin, nous avons mis en service une multitude de centrales à La Réunion, à Mayotte, et c'est pas indiqué également en France métropolitaine. On a gagné 29 MW de projets sur l'année, complètement en ligne avec notre ambition d'investir entre 30 et 50 millions d'euros par an dans le solaire. 29 MW, je le traduis en CAPEX, c'est un peu plus de 30. Hein, je rappelle qu'on est essentiellement présent dans les DOM, et que dans les DOM, sur du solaire avec stockage, on est à ces niveaux de CAPEX par mégawatt. Alors, comment parler de solaire sans évoquer le sujet du moment qui a fâché beaucoup de monde en 2021, la baisse des tarifs S06-S10. Ceux qui auraient, par miracle, échappé à cette information, il est prévu dans la loi de finances 2021 une baisse des tarifs pour les installations qui ont été mises en service entre 2006 et 2011. Le décret d'application de cette loi est sorti en fin d'année, en novembre, avec effet à partir du 1er décembre 2021. Le résultat pour Albioma qu'on a attendu, il y a eu beaucoup de suspense, mais qu'on est capable de dévoiler définitivement aujourd'hui, est que deux grosses centrales sont touchées, avec des baisses sévères sur ces deux centrales, moins 50% de baisse de tarif et moins 37% respectivement. Sont des centrales, une à La Réunion et l'autre en Guyane. Et l'impact, elle représente 9 MW, comme je viens de le dire, et l'impact pour ces deux centrales et pour le groupe, finalement, de l'ensemble de ces baisses, c'est 3 millions de pertes sèches d'EBITDA sur une année pleine. Donc, à compter de 2022, 2021, très peu d'impact, puisqu'il n'y a qu'un mois. Voilà. On a profité pour passer une dépréciation d'actifs sur ces deux centrales, et cette dépréciation est dans les comptes 2021. Donc j'espère que l'épisode est clos. Alors il n'est pas complètement clos, il y a un upside. On a fait appel de cette baisse de tarif sur les deux centrales concernées, initié une procédure de sauvegarde, et donc on espère faire entendre raison à la Commission de régulation de l'énergie, parce que moins 50% de baisse de tarif ne nous paraît pas très raisonnable, ne nous permet pas de payer les coûts fixes, ne nous permet pas de payer, alors je demande aux banquiers de se boucher les oreilles, le service de la dette. Mais on va trouver des solutions et on va essayer de faire entendre raison à la Commission de régulation de l'énergie. Le Brésil. Alors, le Brésil, tout est vert, tout est ensoleillé en cette année 2021. Excellente performance à la fois opérationnelle, 594 gigawattheures de production comparé à 373. Hein, vous voyez, il y a un effet périmètre avec la mise en service de Vale do Paraná, mais hors effet périmètre, on est déjà à 13% d'augmentation de la production. Des taux d'efficacité énergétique et des rendements en kilowattheure par tonne de canne en progression, 64. Au-delà de cet effet volume important, on a bénéficié d'un environnement de prix, on peut le dire, extraordinaire. 2021, c'est la plus forte sécheresse depuis un siècle au Brésil. Vous savez que le Brésil, l'électricité pour l'essentiel au Brésil vient de l'hydraulique. Et donc, les barrages étaient au plus bas. Ça a contribué à une forte tension sur les prix. On a pu participer à des appels d'offres d'urgence organisés par le gouvernement et vendre notre électricité, une petite partie de notre électricité, à 1 500 réal du mégawattheure. Et je rappelle que le prix moyen sur nos PPA, qui représente 90% de nos ventes, c'est de l'ordre de entre 250 et 300 réels du mégawattheure. Donc vous voyez, c'est un effet d'aubaine, on en a bien profité. Au Brésil, on est sur un modèle non-merchant. 90% de nos ventes sont via des contrats à long terme, indexés à l'inflation avec un prix, et je viens de l'indiquer, entre 250 et 300. Sur les 10% restants, on peut profiter de ce genre de faire ce genre d'arbitrage et vendre, quand il y a des occasions comme celles qui se sont présentées, à des tarifs assez élevés, soit au spot, soit sur des appels d'offres d'urgence. Alors ça, c'est un nouveau slide. On ne présentait pas à part entière la Turquie, mais il va falloir s'y habituer, surtout qu'on a deux centrales dorénavant. Pour 2021, le petit graphique illustre la performance de Gümüşköy, notre première centrale, 49 gigawattheures comparé à 46 en 2020. Donc en léger progrès et complètement en phase avec notre business plan, nous avons prévu de passer à 65-70 entre 2022 et 2023 grâce aux investissements qu'on a réalisés là, ces dernières semaines, installation et forage d'un nouveau puits de réinjection. Si on passe aux résultats financiers. Alors, les résultats sur l'année 2021 sont très bons. Une croissance de nos revenus de 13%, de l'EBITDA de 4%, du résultat net de 7%. On est, comme l'a dit Frédéric, dans le haut de la fourchette de notre guidance. Et ce, malgré le sujet taux d'appel que j'ai expliqué, qui nous impacte au niveau de l'EBITDA et des charges supplémentaires. Pour rentrer dans les détails, le plus simple, c'est d'aller directement sur les bridges. Vous voyez à l'écran le bridge de nos revenus. Première brique qui mérite d'être commentée, plus 33,1 fuel price effect. Ça, c'est l'effet prix combustible. Comme je vous l'ai dit, on est, et heureusement, en passe-roue sur l'achat des combustibles, que ce soit pellé, charbon, ce qui veut dire que plus on achète cher, plus on refacture cher. Vous voyez, c'est la première fois qu'il y a un impact aussi important, plus 33 millions d'effets positifs sur notre chiffre d'affaires en 2021. L'activité biomasse thermique France contribue à plus 26 millions de la croissance des revenus, 8 millions liés à l'augmentation des primes fixes. Ça, c'est essentiellement la prime fixe conversion sur LM3, ainsi que la prime fixe que l'on a négocié sur Galion 2 et Saint-Pierre dans une moindre mesure et qu'on va avoir jusqu'à la fin des contrats. Bonus, malus, on est à moins 1,3. Notre dispo est moins bonne que l'année précédente, donc en variation, on a des malus. Et enfin, Other Thermal Biomass France, c'est l'augmentation de notre chiffre d'affaires variable lié à la remise en service d'ALM3, qui était en travaux pour conversion en 2020 et qui a produit toute l'année en 2021. Le solaire est stable, on en a parlé. Le Brésil, vous voyez, la bonne performance se traduit par une augmentation de 2,7 de nos revenus, malgré un effet change négatif de 2 millions d'euros. Et Other, 4,1, ça c'est Gümüşköy, c'est la performance de la Turquie. Si on regarde maintenant l'EBITDA, je ne vais pas recommander toutes les briques, mais seulement celles qui diffèrent du bridge revenu, notamment les deux premières. Alors, en 2021, nous avons négocié un settlement, un arrangement, je ne sais pas comment on traduit ça correctement en français, avec un de nos fournisseurs. On avait un litige, de très longue date qui remonte à plus de 10 ans, avec un de nos fournisseurs de turbines. On a trouvé un accord qui a valu le règlement par ce même fournisseur de 6 millions d'euros à Albioma. C'était un défaut de fonctionnement d'une de nos turbines. On ne citera pas le nom du fournisseur par respect pour les accords de confidentialité. La deuxième brique, 6 millions d'euros, que vous voyez, qui s'appelle Claim Management, c'est les accords sur Galion 2 et Saint-Pierre. Et ça, c'est la partie rétroactive. C'est-à-dire qu'on est compensé depuis 2018 sur ce qu'on aurait dû avoir en prime fixe et en chiffre d'affaires variable. Le reste va directement dans la partie récurrente et on retrouvera, mettons qu'on est sur Galion, 1,5 million de primes fixes annuelles supplémentaires. Les trois dernières années, ça fait 4,5 millions. C'est ce que vous voyez dans Claim Management. Donc, cette partie non, est non récurrente, bien évidemment, les 6 plus 6, on ne les retrouvera pas. On ne les retrouvera pas puisque c'est de la rétroactivité pour le claim management et le règlement d'un litige. Tout le reste est du récurrent. Et je vais commenter la brique Biomasse Thermique France moins 7,6. Et c'est là que vous comprenez le poids du taux d'appel. On retrouve l'augmentation de nos primes fixes liées à LM3. On retrouve le bonus-malus négatif. Et Other Thermal Biomass France, là, passe en négatif moins 14,6. Ça, c'est on a produit, mais dans des conditions dégradées et donc avec des charges d'entretien et des rendements bien moins bons. C'est ce qui explique, vous voyez, ce moins 14,6 et qui a un impact sur le deuxième semestre non négligeable. Voilà, je crois que j'ai déjà évoqué, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Vous avez une synthèse de notre compte de résultats avec les grands soldes intermédiaires de gestion, les DNA en augmentation en lien avec l'augmentation des immobilisations, un résultat financier très stable, bien tenu, on peut le dire, parce que nos dettes augmentaient, mais nos charges sont en ligne avec celles qu'on avait sur 2020. Les charges fiscales, les impôts à moins 24,2 comparé à moins 26 et un taux d'imposition effectif de 26%, on se rapproche du 25% de la loi Macron, le taux d'IS de droit commun, et on vient de 29, donc en termes de fiscalité, on a des charges qui baissent et un résultat net en forte croissance, 59 comparé à 55,3 l'année précédente. Notre position de trésorerie et notre génération de cash flow est toujours aussi bonne. C'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant. Quand on parle d'Albioma, on a un free cash flow très élevé et la capacité de financer nous-mêmes notre croissance. C'est ce que vous voyez à l'écran. On partait avec 125 millions de cash dans les soutes en fin 2020. On a généré 148 millions de free cash flow sur l'année. Grâce à ces free cash flow, on a pu se développer. On a dépensé en capex de développement 161. Ça, c'est la conversion de Bois Rouge. C'est le solaire. C'est l'acquisition de Gumuscoy. On a émis 187 millions de nouvelles dettes, essentiellement de la dette projet. Parallèlement, on a repayé 126. La dette nous a coûté en taux d'intérêt 32. Nous avons, comme tous les ans, payé un dividende à nos actionnaires qui représentait l'équivalent de 50% du résultat net. Et là, vous avez la partie cash qui représente moins 18. On a payé nos minoritaires et donc on finit l'année avec une position confortable de 108 millions d'euros de trésorerie qui nous donne encore des marges de manœuvre importantes. C'est pour ça que nous n'avons pas changé le titre du slide. Ah non, pardon, j'anticipe sur le slide d'après. Mais il y a un petit slide intermédiaire qui est d'actualité. Comment on gère le risque inflation et taux d'intérêt et évolution des taux d'intérêt chez Albioma. Sur la gauche, inflation. L'inflation est une bonne chose pour Albioma. On l'a constaté historiquement. Tous nos contrats sont indexés à l'inflation. En France, vous voyez, on a même mis les indices qui sont intégrés à nos contrats thermiques. Au Brésil, et heureusement, on est indexé à l'IPCA ou l'IGPM, et en Turquie, on a des contrats, Frédéric l'a dit, indexés au dollar. Donc l'inflation, on est mieux avec une inflation à 3% qu'une inflation à 1%, parce qu'il y a un effet ciseau, nos revenus vont augmenter plus vite que nos charges. Une inflation à 0,5 ou 1% chez Albioma, c'est presque l'inverse. Taux d'intérêt. Le petit graphique parle pour lui-même, 93% de notre dette est couverte ou à taux fixe à fin février. À fin février. Ça veut dire que sur le périmètre existant, nous sommes peu sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Et si les taux remontent, et c'est ce qu'on a constaté ces derniers mois quand on a mis en place des produits dérivés, on s'adapte et on fera avec sur les nouveaux projets. Hein. Oui, c'est là où je disais, nous n'avons pas changé le titre de ce slide, un bilan solide. On peut dire que c'est toujours vrai. Notre dette brute a augmenté 971 comparé à 901. Ça, c'est pour l'essentiel l'augmentation de la dette projet à 828. Il y a également de la dette corporate qui a été tirée en fin d'année pour financer une partie de l'acquisition de la Granodière. Donc, c'est assez temporaire. On a 143 comparé à 113 à fin 2020. Et vous voyez nos ratios qui sont relativement stables. Ratio dette nette sur EBITDA de 4,1 comparé à 3,8 et ratio de gearing 143 comparé à 145 l'année d'avant. Alors, je précise, il n'y a pas la dette IFRS 16. Vous verrez dans le bilan qui représente une quarantaine de millions d'euros. Mais évidemment, s'il n'y a pas la dette IFRS 16 au numérateur, on a enlevé la même chose au dénominateur dans l'EBITDA. Si ceux qui ont besoin de faire leur calcul avec IFRSS, vous verrez, ça ne change strictement rien, mais on vous laissera le faire et vous aurez les outils à votre disposition dans nos annexes. Alors, compte tenu de ces très bons résultats, on va proposer un dividende en Assemblée générale de 84 centimes d'euros par action. Vous voyez que ce dividende a cru depuis 2018 de 9%, et on va maintenir le principe de soit les actionnaires peuvent tout prendre en cash, soit la moitié en numéraire et l'autre moitié, la moitié en cash et l'autre moitié en numéraire. Alors, un slide qui risque d'intéresser certains d'entre vous dans la salle. Nos objectifs. Nos objectifs 2022. Sur 2021, on a rappelé les résultats avec le non-récurrent et hors non-récurrent. Donc, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas tirer un trait sur le publié en se disant on part de 215, on aura un peu plus l'année prochaine. Ce n'est pas aussi simple. On est à 203 sans le récurrent et à 51 sur le résultat net. On propose une fourchette d'EBITDA de 210 à 220 pour 2020. Et de 52,60. Cette fourchette intègre évidemment la perte sèche des 3 millions sur le solaire liée à la loi de finances. Elle intègre aussi ce que l'on a évoqué sur les taux d'appel hein, qui risquent de nous perturber, même s'il n'y a pas de certitude absolue, dans les prochains mois, au moins au premier semestre 2022. Ce qu'on peut dire aussi, parce qu'on s'en rapproche, c'est que, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, en 2013, la société avait annoncé sa volonté de doubler de taille entre 2013 et 2023. Et doubler de taille, ça veut dire doubler ses agrégats financiers. Alors, pour mémoire, en 2013, on était à 120 millions d'EBITDA. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en lice pour tenir ses engagements en 2023 et doubler notre taille, donc doubler notre EBITDA, et on l'espère, ce qui va en dessous. Donc l'année 2022, on aura encore un petit peu de croissance, mais c'est une année de transition parce que les travaux de Bois-Rouge vont se finaliser en octobre, novembre, et l'impact sur Bois-Rouge sera peu visible. Par contre, en 2023, avec une tranche en année pleine, le solaire et la fin des travaux de Bois-Rouge, on va avoir une marge d'escalier assez importante. Et c'est toujours d'actualité parce qu'on tient bien nos calendriers industriels. Et ce que je dis est valable aussi pour 2024, maintenant qu'on vient d'annoncer qu'on avait obtenu une délibération de la CRE et qu'on va pouvoir engager les travaux sur le GOL. Voilà pour ce petit passage sur nos objectifs. Et pour commenter ce qui va au-delà de 2022 et 2023, je vais redonner la parole à Frédéric.
Voilà, pour terminer cette présentation, les perspectives. Vous connaissez déjà ce graphe qui illustre notre souhait de déployer entre 600 et 800 millions d'euros sur les 4 prochaines années, avec 4 grands blocs d'allocation de capital. Le premier à gauche, c'est la conversion. vous voyez, qui se déforme au gré des, au gré des saisons, puisque Julien a donné les chiffres, hein, il suffit de faire des additions. Gol et Bois Rouge, ça fait déjà beaucoup quand on prend la somme de ces deux gros capex et qu'on la compare à 600 ou 800 millions. Deuxième bloc, les nouvelles capacités de biomasse dans d'autres départements, là où le besoin est réel, soit lié à des, des évolutions démographiques. Hein. Il y a des départements d'outre-mer où la population est en croissance, soit lié à des sujets de déclassement de moyens existants. EDF exploite des moteurs fuel âgés qu'il faudra remplacer à un moment ou à un autre. Le solaire, Julien en a parlé, 30 à 50 millions de capex par an. Et pour le moment, les projets que nous engrangeons nous permettent d'être optimistes quant à notre capacité à tenir ce rythme-là. Et la diversification avec du Brésil, de la Turquie, de la géothermie ailleurs et du solaire en dehors de nos zones historiques. Ce slide, vous le connaissez également, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux chez Albioma. Il dit finalement que sur la base de nos actifs très solides, en haut à gauche, notre capacité installée, 1 gigawatt, nous sommes en capacité de générer du free cash, donc de l'EBITDA. L'EBITDA se transforme en cash chez nous. Un fort taux de transformation de l'EBITDA en cash, en croissance, et que ce cash, il se transforme également en résultat, et avec le résultat, on peut faire deux choses. On peut rémunérer nos actionnaires en bas à droite et continuer à investir en bas à gauche. Et notre plan de croissance, que vous avez vu sur le slide précédent, est un plan qui est autofinancé. C'est important, nous n'avons pas fait appel au marché depuis que nous sommes cotés, hein, depuis 20 ans. Nous n'avons pas émis d'instruments dilutifs. Donc nous autofinançons notre croissance sur la base de la génération de cash de nos propres moyens de production et évidemment en ayant recours au levier. C'est ce que vous voyez là. Nous sommes confortables dans des zones entre 3,5 et 5 en phase d'investissement, 5,5,5. Hein, avec un levier de dette nette sur EBITDA qui évolue dans ces ranges. Voilà. Tout ceci nous mène à la conclusion. Nous sommes un acteur du renouvelable, de la transition énergétique. Nous avons des performances extra-financières solides. Nous sommes une société en croissance et nous sommes une société solide, avec une génération de cash forte. Voilà.